France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La terre brûle, l'histoire d'un désastre annoncé, du Kenya à Singapour, de l'Inde à Madère, en passant par la Chine, par les États-Unis, à vrai dire, par le monde entier. C'est une histoire environnementale qui s'écrit sur le temps long. La terre, les mers, les océans, les forêts, les montagnes et les gens qui les habitent, sur le temps long donc, mais aussi sur le temps court de l'urgence environnementale. Allez, pour nous, le départ sera Singapour.
Toute proche de la péninsule de Malaisie, dont elle est séparée par le détroit de Johor, l'île de Singapour occupe une position clé entre l'océan Indien et la mer de Chine. Si la Malaisie a pour emblème le tigre, Singapour est la cité du lion.
Sunil Amrice, bonjour.
Bonjour, thank you for having me.
Merci de me recevoir.
Et merci beaucoup à Marguerite Capel qui aujourd'hui sera votre voix en français. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Yale aux États-Unis. Vous dirigez le département d'histoire environnementale. Vous publiez La Terre brûle, 1000 ans d'histoire. Nous entendions pour ouvrir cette émission une archive qui parle de Singapour en 1982. Vous aviez 3 ans, mais votre ouvrage, vous le commencez en évoquant une toute autre ville. Vous parlez de Singapour, beaucoup plus urbaine. Ce n'est pas cet univers que nous avons entendu dans l'archive.
That's right. I grew up in Singapore in the
90s. J'ai grandi à Singapour dans les années 80, 90.
When my parents first moved there, when I was
quand mes parents sont installés là, j'étais très jeune et il n'y avait que quelques gratte-ciels dans la ville. Et au fil des années, la ville a été complètement transformée, elle a grandi à la verticale. Mais elle s'est aussi développée à l'horizontale, en s'appropriant des terres et en les revendiquant sur la mer. Des années 60 aux années 2000, le territoire de Singapour a grandi de 25%.
Pour bien comprendre, vous dites, mes parents se sont installés là, vous dites je dans votre ouvrage, je me permets de poser la question, vous êtes né au Kenya, c'est bien cela, mais vous n'êtes pas originaire du Kenya, c'est une histoire aussi de parcours individuel.
That's right. It's a history of
oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'une famille, de sa trajectoire. Mes parents sont nés, ont grandi en Inde et puis leur travail les a amenés en Afrique de l'Est. C'est là que je suis né. Mon père a été ensuite envoyé à Singapour et c'est là que j'ai grandi.
Pourquoi l'histoire environnementale dans des études d'histoire quand on est à la toute fin des années 1970, au début des années 1980, c'est-à-dire que vos études, vous les commencez 20 ans après pour simplifier les choses. L'histoire environnementale existe déjà, mais elle n'a pas la portée qu'elle a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce champ-là ?
J'ai
commencé effectivement sans m'intéresser à l'histoire environnementale. Quand j'ai commencé l'histoire, les études d'histoire, ce qui m'attirait, c'était vraiment l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire du commerce, des échanges. J'avais bien sûr conscience de certaines préoccupations environnementales en tant que jeune, mais ce n'était pas ce qui me conduisait en premier lieu à étudier l'histoire. Mais je me suis rendu compte, au fil de mes recherches, en travaillant sur l'Asie du Sud-Est, en travaillant sur l'Inde, que les facteurs environnementaux sont inévitables, même quand on essaie de comprendre d'autres types de mutations.
Quand vous avez commencé à travailler sur l'Asie du Sud-Est, c'était avec quel regard ? Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là ?
Au départ, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire des migrations. Et c'est toujours un sujet extrêmement important dans mon travail. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les déplacements des populations entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est au 19e et au début du 20e siècle. C'est à travers cette histoire de déplacement que je me suis intéressée au mouvement des populations, mais aussi au mouvement des idées, au mouvement des cultures. Et c'est ça qui m'a conduit vers l'histoire environnementale.
Mais nous comprenons bien que votre vécu familial permet aussi de comprendre, mais comme tout le monde, hein, les cheminements intellectuels. Vous avez commencé vos recherches sous la direction d'Emma Rothschild, hein, qui nous a fait l'honneur de venir dans le cours de l'histoire, une émission à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Emma Rothschild qui a publié une enquête généalogique, parce que c'est ça aussi, travailler sur l'immigration. Ce n'était pas simplement l'immigration aujourd'hui, c'est l'immigration du passé également.
That's right. Emma Rothschild was my doctoral
Emma Rothschild a été effectivement ma tutrice de thèse et elle m'a appris quelque chose de très important. J'ai appris à associer le micro et le macro. C'est ça qu'elle fait dans son travail. Elle part d'une famille et elle peut aborder l'histoire d'un empire. De la même manière, dans mes recherches, je m'intéresse toujours aux voix à petite échelle, aux petites voix, même quand je travaille sur un tableau beaucoup plus large.
Dans La Terre brûle, 1000 ans d'histoire que vous publiez, Sunil Amrish, chez Albin Michel, il y a beaucoup de personnages. C'est une histoire environnementale, sans doute, mais une histoire, comme toutes les histoires, très incarnée. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à commencer vos chapitres en racontant un destin individuel, un parcours, quelqu'un qui arrive à tel endroit, venant d'ailleurs, et c'est ça qui est l'amorce. C'était important pour vous de mettre en avant des figures pour pouvoir raconter après ce qui est souvent des idées beaucoup plus générales et qui nous concernent tous et toutes.
Oui, je pense que c'est effectivement ça, parce que quand on parle de crise environnementale ou quand on parle d'histoire environnementale, je crois que très facilement, on peut imaginer que ce ne sont que des choses abstraites et le penser uniquement de façon très vaste. On parle système, on parle de capitalisme, d'impérialisme. Pour moi, c'est très important de se rappeler qu'au cœur de tous ces changements, il y a des gens, des choix humains, des décisions prises par des humains. Souvent, avec des contraintes très fortes, et c'est là que l'histoire environnementale et l'histoire individuelle se rencontrent.
Et elles se rencontrent de manière extrêmement limpide. Et c'est stimulant de lire votre Terre brûle, Sunil Amrish, avec aussi la volonté de jouer sur le temps long. Et alors ça, quand on regarde, il y a une date qui ouvre la première partie, c'est 1200. Alors on entend bien que ce n'est pas une date précise, mais nous sommes il y a plusieurs siècles. Et l'histoire environnementale mérite aussi ce regard sur un temps très long.
In fact, one could say that I start too late.
On peut même dire que j'ai commencé trop tard. Il y en a d'autres qui ouvriraient le livre 5000 ans avant, avec la naissance de l'agriculture. D'autres écriraient l'histoire de la vie sur cette planète en remontant aux ères géologiques précédentes. Mais j'ai fait le choix délibéré de commencer au milieu de l'histoire. Mais dans un moment où l'histoire s'accélère, selon moi, où l'impact des sociétés humaines sur la planète est en train de s'intensifier, et aussi où les liens d'interconnexion sont en train de se renforcer.
Il y a le quand. Il y a le « où ». Beaucoup de cartes dans votre ouvrage, mais c'est important, les cartes qu'on fait de l'histoire, bien sûr. Dans cette histoire-là, le « où » est important aussi. En partant du XIIIe siècle, il faut partir d'un point, ou de plusieurs points. Comment avez-vous procédé ?
J'ai décidé de commencer en Chine. Parce que ce qu'on observe en Chine à cette période-là, c'est une transformation de l'agriculture et la culture du riz. Et l'un des fils rouges du livre, selon moi, c'est l'alimentation. Depuis cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas, notre manière de cultiver notre alimentation est un des impacts profonds que les sociétés humaines ont sur la planète.
And what I found by looking at China, by starting with
Et
China,
en observant la Chine pour commencer,
was that
ce que j'ai constaté,
one particular strain of rice,
c'est qu'une certaine variété de riz,
which came from what is now Central Vietnam,
qui a été importée de ce qui est aujourd'hui le centre du Vietnam,
it grew very fast.
Et qui poussait très vite,
it was a more resistant to drought,
et qui était plus résistante aussi aux sécheresses,
transformed the possibility
a complètement
of life
transformé
on Earth.
Les possibilités, le potentiel de la vie sur Terre.
So suddenly, at a moment when the population
Donc
of
à un
Paris
moment
was about 200,000 people,
la population de Paris, c'était peut-être 200 000 personnes,
and the population of London was less than
100,000. Londres, moins que 100 000.
China was able to
en Chine,
sustain cities of a million people.
On pouvait avoir des villes d'un million d'habitants qui vivaient.
And that changes how densely human beings
could live
together.
Et ça a changé complètement la densité de la population
and
humaine.
And then created all sorts of possibilities.
Et ça a créé aussi toutes sortes de nouvelles possibilités.
Les questions environnementales aujourd'hui nous font nous poser des questions sur allons-nous vivre et survivre sur cette planète? Va-t-elle être encore vivable? Mais vous avez raison de le souligner. Pendant longtemps, la question c'était allons-nous pouvoir nourrir des populations? Restons en Chine. Au tout début du XIIIe siècle.
Les vieux grains produisent de nouvelles pousses. Les prunes mûrissent et les pluies apportent l'abondance. Dans les rizières, commencez à ensemencer, alors que vous avancez d'un pas lent et que vos bras se balancent continuellement d'avant en arrière. Le lendemain matin, regardez les terrains plats, où des pointes vertes effilées ondulent dans le vent. Regardez attentivement ces racines longues d'un pouce, pour que les rangées offrent l'espace nécessaire au mûrissement.
Jeanne Delecroix, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lisait ce poème de Lu Shu. Nous sommes donc, allez, on va dire à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, selon notre calendrier. Les semailles, ici, une histoire environnementale, bien sûr, une histoire très humaine et toujours des questions de vie et de survie. Parce que c'est ça qui nous intéresse et vous l'avez dit en évoquant ces personnages que vous saisissez qui nous conduisent, c'est l'humain qui change la nature, mais la nature fait vivre l'humain. C'est cette relation profonde que vous montrez sur ce temps long.
That's exactly the relationship.
Oui, c'est exactement cette relation-là.
There's a risk with environmental history that
le risque avec l'histoire environnementale, c'est qu'on oublie la composante humaine.
The climate is determining
everything. On s'intéresse qu'au climat comme déterminant de tout.
But in fact, what it is, I think, a delicate interrelationship.
Alors qu'en réalité, c'est une relation mutuelle et très complexe.
Between environmental constraints and
c'est
human creativity.
Un rapport entre la créativité humaine et les contraintes environnementales.
And I think that's where focusing on individuals
et c'est là que se concentrer sur la trajectoire d'individus, la façon dont ils affrontent ce dilemme universel humain,
helps us to understand
c'est ça qui nous aide à comprendre la trajectoire du changement.
Et puis réduire les risques, parce que dans ce poème, les pluies abondantes sont évoquées. Pluies abondantes, inondations, risques, dangers, et en même temps, eh ben c'est l'abondance. Et c'est cela aussi que vous étudiez. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine à ce moment-là? Quelles ont été les conséquences de ces transformations liées à ces nouvelles céréales, au riz en tout cas, ces nouvelles espèces de riz?
I think we can trace the transformation.
Alors,
in
les transformations, on peut les retracer de différentes manières.
Maybe the most important is
le
that
changement le plus important, peut-être,
by achieving some
c'est
level of food
qu'en
security,
arrivant à une forme de sécurité alimentaire,
it allowed for
jusqu'à
the
un
flourishing
certain niveau,
of manufacturing in China.
L'industrie a pu s'épanouir en Chine.
And this is what makes China the economic magnet for
et
the
c'est
world.
Ce qui en a fait une force d'attraction pour le monde.
Eventually, that is what attracts also the Europeans.
Et c'est ce qui finit d'ailleurs par attirer aussi les Européens jusque-là.
And so what the rice revolution allows
donc la révolution du riz, ce qu'elle permet, c'est la spécialisation.
But it also comes at a cost. And the
mais
cost
bien sûr, il y a un prix à payer.
Was born by,
ce prix a été porté par les populations nomades,
China,
par les habitants du sud de la Chine,
who were marginalized, who
qui ont été marginalisés, qui ont été chassés par les riziculteurs et les nouveaux colons.
And that's a familiar story. We
c'est
see
une histoire
in many
qu'on connaît bien et qu'on voit se répéter sur de nombreux continents dans les siècles qui suivent.
Mais on ne peut pas dire que ce qui s'est passé en Chine à ce moment-là a pu assurer la sécurité alimentaire sans conséquences. Il y a eu des conséquences, mais à regarder le résultat, on oublie parfois ses conséquences, vous venez de les évoquer. C'est vrai que cette transformation a été profonde, ça a changé les paysages, ça a changé même la manière de vivre des gens. Alors, c'est toujours le danger, hein, et on n'est pas là, l'historienne n'est pas là pour juger, mais porter ce regard sur du temps long, ça permet vraiment de saisir comment l'humain transforme son paysage pour assurer sa sécurité. Après, c'est mesurer les conséquences que cela peut avoir. Ici, ces conséquences, on les oublie, on ne voit que la sécurité.
That's right. And even that security,
et même cette sécurité alimentaire, elle était fragile. Il faut se souvenir qu'on parle simplement d'une petite marge de sécurité. C'est seulement au 19e siècle, après la révolution industrielle en Europe, que l'on a vu advenir une marge de sécurité un petit peu plus conséquente dans certaines sociétés. Jusque-là, on a du mal à l'imaginer, je crois, mais chaque acquis paraissait extrêmement fragile.
Oui, et c'est toujours fragile, et au fil du temps, c'est toujours fragile. Sunil Amris, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la sécurité que nous a offert alors le 19e siècle, le 20e siècle, fait que nous avons pu oublier combien tout cela a été et est fragile?
Yes, and I think at
oui.
the same time that
et je crois
maybe we are too confident and too comfortable.
Que nous avons peut-être trop confiance, que nous sommes peut-être trop dans une forme de confort par rapport à notre sécurité, à croire qu'elle n'est pas fragile.
If we take a long perspective, we
si on regarde sur le temps long,
that we shouldn't take for granted.
On voit qu'on ne devrait pas tenir pour acquis le contrôle que nous avons sur notre environnement, l'environnement qui nous nourrit.
And that's why I went back to China.
C'est pour ça que je suis retournée en Chine,
in the 13th century,
au XIIIe siècle.
To try to trace when is it that
pour essayer de comprendre quand nous avons commencé à éprouver cette possibilité de sécurité,
but always with these limits.
Mais toujours dans certaines limites.
And then the question becomes, when did we forget?
Et la question est devenue, quand avons-nous oublié l'existence de ces limites?
Avec ces différentes parties chronologiques, la démarche de l'historien ici, cette première partie, ce sont les germes du changement, on l'a dit, qui commencent au XIIIe siècle en Chine. Mais là encore, la géographie est importante, ce n'est pas comparable partout de la même manière et qui s'étend jusqu'en 1800. Quand on vous fait cette analyse-là, c'est-à-dire que dans les différents espaces du monde, on assiste à ces changements ou germes du changement à des rythmes différents, c'est comme ça qu'on peut l'analyser?
Yes, I think so. But one
oui,
thing that's
ce
striking is that
il y a une chose qui est frappante, c'est que simultanément,
in China,
en Chine
and in Western Europe,
et
which
en Europe occidentale,
its,
qui à la même période voit aussi une transformation des paysages avec l'introduction du blé,
there seems to be something of a parallel.
Il semble y avoir une forme de parallèle.
It has very different effects.
L'impact est très différent.
Because, partly because rice
en partie parce que la riziculture et la culture du blé ont des exigences, des contraintes sociales très différentes.
And rice agriculture, and this is,
la riziculture,
think, over the long durée, an important contrast.
Sur le long terme, c'est vraiment un contraste.
Rice
je crois qu'il faut pointer la riziculture
profit from large landholdings.
Ne profite pas d'être mené sur des grands espaces.
And that can start to explain some of the rather different
et ça explique
trajectories
les trajectoires assez différentes du développement de l'agriculture entre l'Europe et la Chine.
Ce qu'on peut dire, c'est que la riziculture permet des concentrations de population quand, là où il y a d'autres formes de culture, les céréales comme le blé, eh bien, cette densité n'est pas possible. Est-ce qu'on peut imaginer ici relier cette idée-là à l'idée d'une expansion, aller chercher de nouvelles terres?
Exactly. So,
oui, exactement.
It's not that there is no expansion.
Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'expansion agraire dans la riziculture. C'est ce qu'on observe. On observe que la culture du riz s'empare, par exemple, des territoires de collines.
In that sense, it's not so different.
Et donc, ce n'est pas si différent de ce qui se passe en Europe à ce moment-là, avec les marais qui vont être transformés en champs, les forêts qui vont être transformées en champs.
But what you see in Europe is large landholdings.
Mais ce qu'on observe en Europe, c'est vraiment des très vastes propriétés.
And an early form of mechanization.
Et aussi un début de mécanisation.
Which is not viable when it comes to rice.
Qui n'est pas viable pour la riziculture.
D'ailleurs, est-ce que quand vous regardez ces différents espaces, vous voyez quelque chose de commun, la volonté de limiter les effets de la nature, ou en tout cas la capacité à maîtriser la nature. J'utilise peut-être un vocabulaire daté, mais tel que ça a pu être imaginé.
And I think this idea,
je crois que cette idée est vraiment devenue un moteur de changement très profond. La question, c'est à quel point est-ce qu'on peut contrôler réellement l'environnement. C'est seulement beaucoup plus tard que l'idée d'un contrôle total est apparue. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie, les infrastructures, de nouvelles formes de gouvernance pour tenir à distance certains des périls posés par la nature.
Dans le cas de la riziculture, transformation complète des paysages, enfin, les systèmes de terrasses, les retenues d'eau, et puis la grande compréhension aussi du fonctionnement de la nature. Parce que dans cette histoire-là, la volonté de contrôler la nature, faut la connaître avant tout. Ça aussi, c'est toujours en essayant d'apporter des réflexions pour le présent que nous avançons quand on fait de l'histoire. Ces gens du passé avaient une grande connaissance de la nature.
Profoundly so.
Oui, une connaissance profonde.
And as early as the 13th century,
dès le XIIIe siècle,
on
a des manuels d'agriculture extrêmement détaillés qui documentent vraiment chaque étape des cultures, des processus. En Inde, à la même période, on a des inscriptions
that tracks every mood, every rhythm of the monsoon, for example.
Tous les rythmes, toutes les variations de la mousson.
Avec ici, dans le cas de l'Asie que vous connaissez si bien, le phénomène de la mousson. Parce que nous sommes souvent, en regardant les actualités, avec la volonté ou le défaut d'associer le changement climatique aux catastrophes et d'avoir des images qui nous viennent en tête. Or, pour la mousson, c'est pas une catastrophe. Ça ne l'est uniquement que quand ça fait des désastres parce qu'il y a de la population. Il y a la possibilité, au contraire, de profiter de la nature. Et c'est ce que vous disiez, en la comprenant, pour alors permettre aux populations d'assurer, je reprends les mots que vous avez utilisés, leur sécurité.
I think the whole history of the Indian Ocean trade,
toute l'histoire du commerce dans l'océan Indien est fondée sur cette connaissance des vents et des courants de mousson.
That is what allows, from a very, very
c'est ce qui a permis très très tôt ces échanges entre le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine.
And some of that is about environmental knowledge.
Et tout ça vient aussi d'une connaissance environnementale.
Sunil Amrit, vous nous avez dit que vous avez commencé votre recherche en réfléchissant aux migrations. Et puis, l'eau est très présente dans toute cette histoire depuis que nous parlons. Il y a de la mousson, il y a des rizières, il y a de l'eau. Comment vous en êtes venu des mouvements humains à réfléchir au mouvement de l'eau ?
Exactly from the phenomenon.
Justement, je suis partie de ce phénomène dont je viens de parler. C'est-à-dire que j'ai réfléchi au mouvement de population et c'est presque un cliché, mais les vents de mousson permettent cette migration humaine et ça existe depuis très longtemps. Mais dans la plupart des histoires de l'océan Indien, y compris dans mes premiers livres,
by the third page of the book, the monsoon is forgotten.
On ne parle plus de la mousson au bout de trois pages.
It's just a background.
C'est simplement une toile de fond. C'est un contexte.
So then I became curious about the
et c'est là où ça a attisé ma curiosité
and my previous
pour la mousson
book before
en tant que telle.
Was a history
mon livre précédent,
science.
C'était une histoire des scientifiques, des recherches knowledge. Sur la mousson, du savoir qu'on a sur la mousson.
That was what really led my full
et c'est vraiment ce qui m'a amené à complètement basculer dans l'histoire environnementale.
Voilà, j'espère que même dans un studio de France Culture, vous avez pensé à prendre votre parapluie.
Mauvais temps général sur le monde entier. À Bombay, floraison de parapluies. Pluie d'été, pluie d'orage. Le vent se met de la partie. Floraison de parapluies retournée. Orage, vent et pluie. On n'a peut-être pas l'habitude de tout cela aux Indes, mais on attend une philosophie.
La mousson en Inde, présentée dans le journal des actualités françaises en 1958. Vous avez particulièrement étudié le golfe du Bengale. D'ailleurs, le golfe du Bengale, où nous trouvons-nous ?
It is the body of water between India and
l'étendue d'eau qui est entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, donc bordée par l'Inde, le Bangladesh, le Myanmar, la Thaïlande et la Malaisie.
Et dans une lecture simpliste de la chose, avec la mousson que nous avons évoquée, nous imaginons des populations qui connaissent très bien leur environnement et qui sont obligées d'être complètement imbriquées à leur environnement. C'est beaucoup plus complexe en réalité. Vous nous montrez que ce n'est pas si simple que ça.
Non, ce n'est pas si simple. Dans cette région du monde, depuis très longtemps, l'économie, les grandes puissances ont tissé des liens avec des zones très lointaines. Donc le savoir environnemental que les personnes pouvaient avoir sur place était également forgé par des mutations politiques. Je pense que le risque, quand on imagine des gens qui auraient vécu dans un lien très intime avec la mousson, la connaissance parfaitement bien, c'est s'imagine surtout des sociétés qui n'évoluent pas. Alors qu'en réalité, elles changent en permanence.
Des sociétés qui changent en permanence. Et dans cette comparaison qu'on peut faire, presque cette histoire comparée entre l'Asie et l'Europe, avec la riziculture d'un côté et puis la culture du blé de l'autre, vous nous l'avez bien expliqué. Il n'y a pas les mêmes enjeux, notamment des enjeux de densité, de population. Et pour l'Europe, il y a l'idée de partir. Et l'exploration du monde, ça entre dans ce que vous nous racontez, avec, pour la lecture que l'on peut avoir des populations du Golfe de Bengale, là aussi le biais de lire avec des sources venues d'Occident. Donc les populations qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, c'est bien souvent une lecture de l'Occident. Mais comment inscrivez-vous dans cette longue histoire, mille ans d'histoire, la terre brûle, les migrations des Européens, cette volonté de conquête du monde?
Je crois qu'en commençant en Chine, on comprend que d'une certaine manière, au point de départ de l'expansion coloniale européenne, il y a une faiblesse. Ce n'était pas une position de force dans laquelle était l'Europe. Ce qui veut dire que la péninsule ibérique, l'ouest de l'Europe, était coupée du marché chinois. Ils étaient exclus du commerce des épices, qui était déjà une source de profit important. En partie à cause de l'occupation ottomane au milieu de l'Eurasie.
C'est presque trop connu pour le rappeler en détail, mais on sait que
Christophe Colomb, quand il est parti, c'est l'Inde qu'il cherchait.
Eh oui, non, mais c'est ça. Et quand on part d'Europe, qu'on part vers l'Ouest, alors bien sûr, il ne le savait pas, mais on peut tomber sur un nouveau continent. Et plus avant, on croise des terres que l'on connaît depuis longtemps, des îles, Madère.
À 545 km du continent américain, en plein océan Atlantique, Madère. Madra la portugaise, qu'on aborde bien entendu à vol d'oiseau. Les caravelles de l'infant Henri, prince de Sagresse, la découvrent en 1465. Elle est parée de forêts, d'où son nom Madeira, bois. Son climat est sain et clément, les fleurs y sont reines. Au cœur même de Funchal, la végétation est luxuriante. Et partout, partout des fleurs, celles-ci jouent. Elles jouent à cacher quelque chose. Quoi ? Eh oui, une rivière. Une rivière qui est très sèche l'été et qui abrite sa honte derrière les bougainvilliers. Couvent, église, et soldats.
Voilà, encore de l'eau, une rivière dans cette émission Voyage sans passeport en 1959 à propos de Madère. Ici, nous l'entendons, hein, cette végétation luxuriante. Il y a tout ce qu'il faut, beaucoup de fleurs, pas de plantation. En revanche, dans la description, Sunil Amris, vous regardez Madère de quelle manière ?
Madère est une composante importante de l'histoire que je raconte dans La Terre Brûle, parce que c'est vraiment le tout premier exemple d'une nouvelle forme de production de sucre via une institution qu'on connaît désormais sous le nom de plantation.
based on the use of enslaved labor.
Et en utilisant le travail de personnes réduites en esclavage.
In many ways, this is a point of departure.
C'est le point de départ.
There had already been sugar plantations.
Il y avait déjà eu des plantations de sucre à petite échelle dans le monde méditerranéen.
What was new in Madeira?
Ce qui était nouveau à Madère,
c'est
que les investisseurs venaient de partout en Europe.
They came from the Low Countries. They came from
ils venaient des Pays-Bas, ils venaient des cités-États italiennes.
And they wanted a quick return,
et ils voulaient un rendement rapide.
And so what you see is that absolute.
Ce qu'on observe, c'est une transformation absolue du paysage de Madère.
The historian Jason Moore has written about
l'historien
this
Jason Moore a écrit dessus.
And they burned it.
Un texte très intéressant sur la manière dont l'île a été incendiée.
And very quickly, after becoming the largest sugar producer in the world,
après avoir été le premier producteur de sucre du monde,
the lands are abandoned.
Les terres ont été abandonnées.
Nous sommes avec Madère à la fin du 15e siècle, au 16e siècle, et puis 17e siècle, et puis, ben ça ne fonctionne plus. On peut dire que c'est le modèle de la plantation à Madère, mais pas d'industrialisation encore. Dans la réflexion, toujours sur le temps long, sur l'histoire environnementale, on saisit combien les répercussions de l'action humaine sur l'environnement n'ont pas attendu l'industrialisation. C'est ça aussi pour vous, jouer sur ces 1000 ans d'histoire.
That's exactly right. And the plantation becomes a model of
la plantation est devenue un modèle d'un système agricole bien précis.
Which aimed for maximum extraction
qui cherche à extraire un maximum de ressources en un temps minimal.
And that model spreads.
Et c'est un modèle qui s'est répandu.
Spreads to the Caribbean.
Jusque dans les Caraïbes, les Antilles, au Brésil.
And it causes both huge environmental harm
et ça
and
a créé énormément de dégâts environnementaux, mais aussi humains.
Avec, dans cette histoire, je l'ai dit, dans votre ouvrage, La Terre brûle, 1000 ans d'histoire, des parties chronologiques, ce qui est bien pratique, et une deuxième partie qui commence en 1800. Donc on peut dire que, malgré tout, l'industrialisation demeure aujourd'hui encore une étape importante dans l'histoire environnementale. Ce bouleversement est là, très présent. Mais qu'est-ce qui conduit à avoir une telle incidence? Parce que c'est pas la machine à vapeur avec un train qui traverse la campagne qui va avoir des effets sur l'ensemble de l'humanité. Mais en fait, si, en suivant comme ça le chemin de fer, on arrive à un réseau beaucoup plus vaste où tout s'enchaîne. C'est ce qu'on saisit en vous lisant sur Neil Amris, c'est combien tout est imbriqué. Vous le vivez ainsi, c'est un peu que comme ça qu'on peut faire de l'histoire environnementale.
Oui, parce que si on observe l'impact de la révolution industrielle, on risque de se concentrer de façon trop étroite sur le charbon, par exemple, ou sur une source d'énergie en particulier. Ce qui a vraiment accéléré la transformation, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est l'imbrication de tout.
And the railways are a great example.
Et le chemin de fer, c'est un excellent exemple.
Because not only do the railways themselves
parce que le chemin de fer exige en soi énormément de ressources pour
and
être construit, être développé et ensuite être entretenu.
But they of course allow for
mais par ailleurs, le chemin de fer permet aussi d'autres transformations.
And the
ça aille encore plus loin. L'exemple que j'utilise dans le livre, c'est l'Amérique du 19e,
where not only
où non seulement le chemin de fer va permettre consommer en fait énormément de charbon, consommer énormément de main d'œuvre, mais c'est aussi ça rend rentable de détruire les forêts du Minnesota par exemple, parce que ça permet d'atteindre des marchés beaucoup plus loin à l'ouest.
J'aimerais bien avoir votre avis sur la notion de progrès, qui est une idée qui a été le moteur de la pensée pendant plusieurs siècles, qui aujourd'hui est utilisé avec beaucoup de méfiance, non pas parce qu'il y a urgence environnementale, même si c'est une bonne réponse, mais surtout parce que l'on saisit comment elle a été utilisée par les siècles passés. Vous vivez comment, vous, cette notion de progrès ?
That is the driving idea
in the 19th century. C'est l'idée motrice du 19e siècle. Et au nom du progrès, on le sait désormais,
many forms of violence,
de nombreuses formes de violence ont pu avoir lieu.
But what I think is most lasting is
mais je pense que surtout ce qui reste, c'est que cette idée
takes on different incarnations.
Elle s'incarne de différentes façons au XXe siècle.
So even while, for example, arguing that the European
Par exemple,
idea of
même si on peut défendre
India,
l'idée que le progrès dans sa vision européenne a été très destructeur en Inde,
India's political leaders in the 20th century
les leaders politiques de l'Inde du XXe siècle,
that's why we need to speed up progress.
Eux disaient, eh bien, c'est pour ça qu'il faut justement qu'on accélère notre propre progrès. On a besoin d'y accéder nous aussi,
so
autant que possible. Donc même ceux qui au départ étaient les victimes du progrès, en quelque sorte, se sont accrochés à cet idéal.
Et parmi ces figures que vous mobilisez, pour illustrer exactement ce que vous venez de dire, Indira Gandhi.
À New Delhi, le Parlement indien, lui aussi, a innové en désignant une femme, Madame Indira Gandhi, comme chef du gouvernement. Collaboratrice de son père, le Pandit Nehru, pendant 25 ans, ministre de l'Information dans le cabinet de M. Shastri, elle a pu donner la mesure de son intelligence et de sa fermeté. Dans une période difficile, elle prend en main le destin de 450 millions d'Indiens.
Nous étions en janvier 1966. Ce sont tous les paradoxes aussi de cette histoire environnementale. Parce que, il y a ces millions d'Indiens, d'Indiennes qui doivent vivre, qui doivent pouvoir manger. Et puis, il y a les risques que cela comporte. Nous le sentons bien et à travers le temps, mais avec une ampleur qui ne cesse de s'accentuer, la mesure est difficile. Peut-on lire l'histoire environnementale comme cela ? Indira Gandhi est informée de risques, peut-être pas comme nous le sommes aujourd'hui. Et puis, il y a des obligations aussi, c'est faire vivre la population.
I think that's exactly how she saw it.
Oui, c'était tout à fait sa vision.
I think we can see Indira Gandhi as a visionary.
On peut d'ailleurs considérer Indira Gandhi comme une visionnaire.
She was aware much before most politicians.
Elle était bien plus consciente que la plupart des politiciens de l'ampleur du problème environnemental. Elle parlait de biodiversité, elle n'utilisait pas ce terme-là, mais elle en parlait.
She talked about pollution.
Elle parlait de pollution.
And already by the early 1980s,
et déjà, dans les années 80, elle parlait de changement climatique.
Long before most
bien
American
avant
politicians,
la
example.
Plupart des politiques américains, par exemple.
At the same time,
mais dans le même temps,
the way she expressed it, in
la manière
the first UN conference
dont
in Stockholm
elle l'a exprimée en 1972 lors de la première conférence des Nations Unies à Stockholm sur l'environnement,
is that she had a task unprecedented in human history.
C'était de présenter ça comme une tâche sans précédent dans l'histoire humaine, celle qui lui incombait à elle,
provide the basic needs of
qui était cette tâche d'assurer les besoins fondamentaux d'un cinquième de l'humanité.
In one or two generations.
Sur une ou deux générations seulement.
Et puis, toujours contextualiser ces phénomènes-là. Les informations dont nous disposons aujourd'hui sont beaucoup plus vastes. Informations chiffrées, tout simplement, par des bases de données. Et puis, tout ce que nous apporte la pensée des chercheurs, des chercheuses qui, année après année, et pas seulement les chercheurs et les chercheuses, tout le monde met sa petite pierre, qui fait qu'aujourd'hui nous disposons de beaucoup d'informations, mais en se projetant dans le passé, il y a quelques décennies ou quelques siècles, il n'était pas possible de saisir cela. C'est le piège aussi de l'anachronisme dans l'histoire environnementale, ce serait de juger les gens du passé à l'aune de ce que nous connaissons aujourd'hui.
I think that's exactly right, which is why we need
oui,
to
vous avez
understand
raison. C'est pour ça qu'il faut comprendre
how the dilemma was seen
comment ce dilemme
past,
était perçu, envisagé dans le passé, par exemple au 19e siècle
and
ou dans les années 70.
What strikes me is that Indira Gandhi was profoundly
ce qui
aware
me frappe, c'est qu'Indira Gandhi, elle avait conscience des contradictions.
And in her own politics, there were also
et
the contradictions.
Dans son approche politique, il y avait d'ailleurs des contradictions.
Because we primarily remember her as
on se souvient
authoritarian
surtout d'elle comme d'une dirigeante autoritaire.
And I think that's exactly correct,
et c'est tout à fait
as
exact.
A characterization. But at the same time,
mais en même temps,
she's a complex thinker.
Elle était aussi une penseuse, avec une pensée très complexe.
The mainstream.
Elle était quelque part en avance
on the basis
sur
of
le
much
reste.
Less information, correct,
et elle avait effectivement beaucoup moins d'informations que ce dont on dispose aujourd'hui, c'est vrai.
Avec une place particulière accordée à la guerre, au moment de guerre, au temps de guerre. Parce que là aussi, c'est un paradoxe. La guerre est là pour tuer, mais elle a eu pour conséquence d'offrir la possibilité après-guerre, de produire encore plus. Et puis, conséquence dont nous sommes peut-être les victimes aujourd'hui, des productions qui peuvent être un désastre. Mais la guerre, c'est un moment aussi important dans La Terre brûle.
That's right. And when I first started writing the
book, oui, et quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne m'attendais pas à ce que les deux guerres mondiales jouent un rôle aussi central.
In the end, I think the two wars take almost 80 pages of the book.
Elles occupent presque 80 pages du livre.
Initially, I thought it would maybe both of them.
Je pensais que ce serait peut-être un chapitre pour les deux guerres.
But I started to see how transformative.
Mais j'ai commencé à comprendre à quel point elles ont transformé les choses.
Precisely for that double reason.
Justement pour cette double raison que vous venez d'évoquer.
They were massive escalations.
Les guerres mondiales ont été évidemment des moments de destruction massive,
both human and environmental.
Destruction humaine mais aussi environnementale.
But they both, especially the Second World War, then
mais la Deuxième Guerre en particulier a aussi créé de nouvelles possibilités pour la vie. Pour prolonger la vie, pour l'enrichir. Des choses qui auraient été inimaginables même dans les années 30.
And so many of the gains, and I'm
beaucoup
very happy to
de
call
gains,
them gains.
Et je veux vraiment les appeler comme tels.
In human society,
beaucoup de choses ont été gagnées
in the second half of the 20th century,
dans la deuxième partie du XXe siècle pour la vie humaine qui viennent de technologies qui ont été développées pour la guerre.
Ce qui conduit à une troisième partie qui s'intitule « L'exception humaine ». En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît en français dans votre ouvrage « La Terre brûle » avec une traduction de Bruno Boudard. « L'exception humaine », qu'est-ce que cela signifie ?
For me, that signifies
pour moi, ce que ça signifie,
c'est
le moment où les intentions humaines, les activités, les technologies humaines commencent à avoir un impact massif sur le système Terre.
I don't think it begins in the 1950s.
Et ça ne commence pas dans les années 50, mais c'est le moment où on voit ce que beaucoup de scientifiques appellent la grande accélération.
Et la grande accélération qui commence en 1945, qui se poursuit, et ce n'est pas une accélération qui suit une courbe en ligne droite. C'est une accélération qui ne cesse d'avancer, qui peut conduire, et vous avez choisi comme titre « La Terre brûle, 1000 ans d'histoire ». Enfin, cette idée de feu est mise en avant depuis le début de l'émission. Nous parlons beaucoup d'eau. Dans votre ouvrage, les forêts ont leur place, la forêt amazonienne aussi, la forêt qui brûle. C'est une image qui est très forte parce que l'histoire que vous nous racontez est une histoire faite d'images de catastrophes, on le dit souvent, mais pas seulement de catastrophes, hein, de populations qui, grâce notamment à la culture, vous parliez des rizières, arrivent à assurer leur sécurité alimentaire. Pourquoi le feu mis en avant ? Pourquoi ce titre « La Terre brûle » ? Parce que bien souvent on dit c'est la montée des eaux qui va conduire à la ruine de l'humanité.
Yes, I think in some ways,
je crois que d'une certaine façon, j'aurais pu mettre le feu au centre de tout ce livre, même si, d'ailleurs, surtout si je remontais encore plus loin dans l'histoire. Mais sur la période de 8 siècles que je couvre, c'est vrai, vous avez raison, c'est sans doute l'eau que je place comme moteur au centre. Mais au 20e, en particulier à cause de la combustion des combustibles fossiles, comme on le sait, mais aussi à cause des incendies de forêt. On sous-estime cet impact de la déforestation quand on raconte ce qui nous a amené à ce point de crise climatique. C'est ce qui m'a donné effectivement l'image et le titre.
Avec tous ces paradoxes que nous soulignons sans cesse sur le temps long, déforestation dramatique aujourd'hui et les conséquences terrible de ce qui se passe en Amazonie, mais Sunil Amris, vous commencez votre ouvrage au XIIIe siècle, où là, l'idée de couper des arbres pour agrandir les terres agricoles est mise en valeur. Et c'est ce jeu très paradoxal, en fait, de notre rapport à notre environnement.
And I think that tension remains.
Et cette tension, elle perdure aujourd'hui, selon moi.
In some ways, I think that idea
d'une certaine façon, je crois que cette idée des terres vides, des terres inoccupées, c'est quelque chose qui est apparu à la fois en Europe et en Chine, au XIIe, au XIIIe siècle. Et on a encore en nous cette idée de terres qu'il faut absolument faire fructifier, qu'il faut utiliser pour produire.
And that is intention.
cette intention
est
en tension avec le fait que le reste du monde, entre autres en Europe, mais aussi en Asie, ont un lien très fort, la population a un lien très fort avec la terre, avec le paysage, qu'il s'agisse d'un paysage agricole ou d'un paysage dit sauvage.
Quelle lecture avez-vous de l'idée d'imposer ailleurs ce que, en Occident, nous n'avons pas réussi à faire ? D'imposer en Afrique, en Amérique du Sud, de préserver des territoires immenses, ne touchez pas à vos forêts, sachant que notre industrialisation s'est appuyée sur la destruction, alors peut-être pas des forêts, parce qu'il y avait besoin de bois et la forêt n'a jamais été aussi grande en France qu'aujourd'hui, mais il y a ces paradoxes, et vous avez évoqué la figure d'Indira Gandhi, c'est également toute cette réflexion sur on nous impose des choses que vous, vous ne faites pas, vous n'avez pas faites.
And I think that is the grand tension.
Et c'est là qu'est justement la tension majeure dans la politique environnementale mondiale depuis les années 70. Les pays du monde en voie de développement, dont beaucoup ont été colonisés, ont défendu l'idée que leur heure était venue.
And that they had the right.
Et qu'ils avaient le droit
to benefit from the kinds
de profiter des mêmes types de progrès, des progrès qui seraient justement permis par les ressources naturelles.
At one point in the 1990s, the Prime Minister at that time of Malaysia,
dans les années 90, le Premier ministre de la Malaisie à l'époque a dit au gouvernement américain,
we are not the lungs of the West.
Nous ne sommes pas les poumons de l'Occident.
Et oui, ben mais c'est bien de le rappeler aussi. Histoire mondiale, obligatoirement mondiale, dans laquelle nous croisons, au détour d'une page, la princesse Mononoké. La princesse Mononoké, chef-d'œuvre de Miyazaki, c'est une musique de Joe Hisaishi. Avec, ici nous étions en 1997, l'idée est de rester en Asie. Alors ce n'est plus l'Asie du Sud-Est, nous sommes au Japon. Et nous sommes, pareil, dans des temps lointains, parce que là nous sommes au XVIe siècle à peu près. Pourquoi, Sunil Amris, avoir placé la princesse Mononoké dans votre ouvrage ?
Quand j'ai commencé à réfléchir à la conclusion de mon livre,
I turned towards the arts, towards,
je me suis tournée vers l'art, vers l'imaginaire.
And Princess Mononoke is particularly
la princesse Mononoké est particulièrement intéressante
because Japan's environmental
parce que l'histoire environnementale japonaise est
fascinating exception.
Fascinante parce que c'est une exception.
In Tokugawa, Japan,
there dans was le Japon des Tokugawa,
efforts to preserve
il y a eu
at a moment where
des efforts pour protéger la forêt
they were being
à une période où ailleurs, en Chine, en Europe, on détruisait la forêt.
And I was struck by the
très
fact that
largement.
Mononoke
ce qui m'a frappé, c'est que Mononoké se passe dans un passé mythique.
And for me, it dramatizes
et c'était une façon de rendre de manière dramatique
like
le dilemme central. Ce que j'aime dans ce film, c'est que la civilisation humaine qui provoque la destruction et qui provoque les dieux, au passage, n'est pas une civilisation mauvaise. En réalité, c'est une société très ouverte qui accepte les prostituées, les lépreux, qui les accueille. Et pourtant, cette petite communauté humaine va transgresser les limites physiques. Et bien sûr, en fin de compte, les humains et la forêt sont détruits. Ce qui ouvre à la fin du film une idée peut-être un peu romantique, mais qui contient de l'espoir, celle d'une relation nouvelle, différente entre les humains et la nature. Et puis j'ai fait le lien avec des idées plus anciennes. Par exemple, l'idée de Rabindranath Tagore, qui est un poète bengali, qui écrivait déjà dans le même genre, un siècle plus tôt, dans le même style.
Avec l'espoir que vous venez d'évoquer, parce qu'une des critiques faites à l'histoire environnementale, c'est de dire « attention, la catastrophe est là ». Mais vous terminez avec des pistes pour redresser la situation. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ici, c'est une réponse à ces critiques. C'est-à-dire, je ne suis pas historien de l'histoire environnementale, simplement pour dire « attention, nous allons vers la catastrophe ». C'est « utilisons le passé pour trouver des pistes afin de redresser la situation ».
Exactly. But I think...
Oui. Mais je crois, d'ailleurs c'est une réaction que j'ai eue hein, à La Terre brûle, hein. On m'a dit que ce livre était trop déprimant. Et c'est effectivement une accusation qui est en général portée contre les historiens de l'environnement. À quoi est-ce que ça sert de s'apesantir sur cette histoire de la catastrophe? Ça nourrit les peurs. Mais je crois que c'est justement en affrontant les contradictions de l'histoire, avec ces destructions, mais aussi les graines semées de nouveaux possibles, c'est seulement en faisant ça qu'on peut se préparer à affronter ce qu'on vit aujourd'hui.
Et
je crois que ce qui est important, c'est de montrer que les réponses ne sont pas dans notre passé. La situation qu'on affronte aujourd'hui est littéralement sans précédent. Mais ce qu'on peut trouver dans le passé, ce sont des idées, des inspirations, et aussi l'impression que le changement est possible, la conviction que le changement est possible. C'est pour ça que j'étudie aussi l'histoire de l'activisme pour l'environnement. Ce n'est pas pour reproduire les solutions qu'ils avaient, mais pour reconnaître et comprendre que leur mobilisation, leur capacité à imaginer le monde autrement, nous ont permis des transformations. C'est ça, je pense, qu'il faut que nous tirions de cette histoire.
Ah oui, l'ouvrage n'est pas déprimant. Il est stimulant. C'est pas déprimant, c'est stimulant. Ce qui peut être déprimant, en revanche, vous y enseignez à Yale, aux États-Unis, c'est la manière dont est analysée la situation elle-même. Ça a une incidence, ça, en tant qu'historien environnementaliste.
Very much so.
Oui, absolument.
I think, for example, the term environmental
justice. Par exemple, les termes justice environnementale
has been banned.
Sont interdits. On ne peut pas utiliser l'expression.
Any official grant application.
Toute demande de bourse.
Or from the websites of government.
Ou sur les sites des ministères et des agences gouvernementales, c'est interdit. Même dans beaucoup d'universités, on est en train de supprimer ces programmes-là.
Because there has been such a
strong attack. Parce qu'il y a eu une attaque extrêmement féroce contre les défenseurs de l'environnement.
And on the very idea that climate change is
real. Et contre l'idée même que le changement climatique existe.
D'où l'importance d'écouter ces voix plurielles qui ne sont pas là pour uniquement tirer la sonnette d'alarme, même si c'est mérité, mais simplement apporter des éléments de réflexion, des éléments d'analyse. Et c'est ce que vous faites, Sunil Amris, La Terre brûle, 1000 ans d'histoire, c'est publié chez Albin Michel, et je le rappelle, une traduction de Bruno Boudard. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup, Xavier.
Et merci à Marguerite Capelle pour aujourd'hui, une fois encore, cette transmission impeccable. Merci beaucoup à vous. En 2002, notre président de la République, alors Jacques Chirac, au quatrième sommet de la Terre, avait eu une expression, c'était pas « la Terre brûle », la maison brûle.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux.
Il est temps, c'était en 2002, le président Chirac. Et voici le fil histoire chronique que vous pouvez retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant au podcast Le Fil Culture G. Emmanuele Arioli, historien spécialiste de littérature médiévale, s'empare du fil histoire avec cette question, mais que faire de l'histoire mise à nu ?
Vous aussi, vous avez peut-être reçu une invitation pour une visite nue au musée ? Oui, quelques musées français proposent désormais des créneaux pour découvrir les collections en tenue d'Adam et Ève. Alors se mettre nu en public ? Une fantaisie contemporaine ? Pas vraiment. Dans l'Antiquité, la nudité fait partie de certaines sphères de la vie quotidienne. Dans la Grèce antique, c'est la norme au gymnase et aux Jeux olympiques. Mais pour voir naître un véritable mouvement organisé autour de la nudité, il faut attendre le christianisme. Au IIe siècle, un certain Prodicus fonde le groupe religieux des Adamites. Ils veulent imiter Adam et Ève avant le péché. Vivre nu, prier nu, retrouver l'innocence du paradis terrestre avant la chute. Leur idée ne fait pas long feu, mais elle ressurgit avec force un millénaire plus tard. Car à la fin du Moyen-Âge, l'époque est en crise. Famine, guerre, peste, corruption de l'Église. Dans ce climat, de nouveaux mouvements religieux se multiplient. Ils prônent une vie simple, égalitaire, débarrassée des richesses. Et dans ce contexte, plusieurs groupes d'adamites ressurgissent. En Autriche, en Bohême et dans les Flandres. Désormais, ce sont des centaines de dissidents, mus par un même idéal, nu. Et selon certains chroniqueurs, ils rejetteraient aussi le mariage, la propriété privée et le travail. Et ils pratiqueraient l'amour libre. Des hippies des années 1400 ? Auraient-ils crié eux aussi « faisons l'amour, pas la guerre » ? Quoi qu'il en soit, leur nudité choque vite l'Église et les autorités. Même les plus réformateurs les trouvent trop extrêmes. Résultat, les adamites sont expulsés, accusés, pourchassés. Par centaines, ils finissent sur les bûchers. Difficile, il est vrai, de se défendre quand on est nu. Le rêve d'Éden chute dans les flammes. Pourquoi tant de haine ? Parce qu'en rejetant les vêtements, ils rejettent aussi les normes sociales. Les habits distinguent les classes, la nudité les abolit. Et derrière cette nudité, il y a un rêve, celui d'une utopie égalitaire. À la fin du XVe siècle, il ne reste plus rien des adamites. Mais leur idéal d'un christianisme plus simple, loin du luxe et de la corruption, rejoint le grand bouillonnement religieux de la fin du Moyen-Âge. Une effervescence d'idées et de débats, une volonté de réforme dans l'Église, un souffle qui mènera bientôt à la réforme protestante. Et les adamites, ces nudistes ou naturistes avant la lettre, nous laissent une idée qui refait surface au fil des siècles. Et si l'on revenait à une forme de vie plus simple, ou même plus proche de la nature ? Et aujourd'hui, on ne risque plus le bûcher en se mettant nu. Certains espaces naturels, plages et parcs, sont dédiés au naturisme. Et maintenant, les premiers musées français s'y mettent. Les adamites voulaient retrouver l'Éden. Les mouvements naturistes d'aujourd'hui parlent de se reconnecter à la nature, ou de simplicité face au consumérisme. Ou alors, il y a ceux qui n'y voient qu'un problème très concret. Comment ne pas croiser, dans une visite nue, ses collègues, ses voisins, ou pire, ses beaux-parents. Cinq siècles plus tard, une utopie toujours aussi difficile à porter et toujours aussi gênante, surtout quand on ne sait pas où ranger son ticket de vestiaire.
Le fil histoire d'Emmanuele Arioli s'est à retrouver sur les réseaux de France Culture, le fil Culture G en vidéo sur ces mêmes réseaux, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet à la technique Anthony Thomasson. émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Tom Umdenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.